sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes qui est présenté en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, communément appelée la SPIB. Et j'ai toujours le plaisir à chaque semaine d'y retrouver son président, directeur général, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors, bonne émission en perspective aujourd'hui, chargée d'actualité, on le verra tantôt, avec un invité en plus que tu présenteras ultérieurement. Mais je tiens d'abord à rappeler aux auditeurs et auditrices qu'il est possible de poser vos questions en allant tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et en cliquant sur « Poser vos questions », sinon on peut transmettre ces questions par texto, par téléphone au 819-519-9050, 819-519-9050. Mais avant de présenter notre invité, bon, l'actualité était quand même assez généreuse encore cette semaine, Donald. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence ce qui s'est passé hier avec la victoire de Christine Fréchette qui devient la première ministre désignée. Et je vais te faire commenter là-dessus parce que bon, on sait que Mme Fréchette est venue à deux reprises à notre émission, Le Parc en 30 minutes, alors qu'elle était ministre de l'Économie. Alors, comment tu réagis par rapport à sa nomination de première ministre?
Ben, la réaction est assez simple, dans le sens qu'on a la chance d'avoir une première ministre qui connaît le parc, qui connaît Bécancour, qui connaît le parc industriel, parce que pour les gens qui ne sont pas nécessairement conscients de tout ça, mais tu sais, chaque société d'État relève d'un ministère. Nous, la Société du Parc, on relève du ministère de l'Économie. Donc, j'ai eu à interagir avec elle. Elle est venue ici. Fait que pour nous, c'est vraiment intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît notre dynamique. Puis peut-être anecdote pour connaître un peu la personne. Tu sais, bon, j'ai eu quelquefois des interactions avec elle. Et au moins deux reprises qu'elle voulait me parler. Puis tu sais, quand la ministre veut te parler, tu te demandes toujours... Y a-t-il une commande qui va arriver? Les deux fois, c'était pour échanger sur un sujet. Elle voulait mon opinion pour réussir à se faire sa propre opinion. Bon. Donc, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment intéressant comme échange.
Mais je pense qu'elle se présente comme ça, quelqu'un qui écoute aussi puis qui veut savoir un petit peu, prendre le pouls. Hein?
Moi, c'est ce que j'ai vécu avec elle. Puis, je trouvais ça important. C'est pas des trucs qu'elle dit. Moi, je l'ai vécu. Et puis, j'étais comme... intéressé à avoir ces discussions-là avec elle, parce que quand quelqu'un va avoir ton opinion pour se faire sa propre opinion, tu te dis, bon, peu importe ce qu'elle va faire de mon opinion, au moins, elle tente de faire le tour de la question.
Qu'on lui lance l'invitation de venir nous revoir une troisième fois.
Oui.
aussi, bon, dans l'actualité, l'abbaye, bon, il y a on entend parler d'entente de principe possible, potentiel. Je ne sais pas ce que tu peux en dire là-dessus, ce que tu en sais par rapport à l'abbaye.
Bien, ce qui est connu, évidemment, c'est que la convention collective est échue depuis juillet 2025. Donc, ça, c'est public. Les deux parties ont convenu de ne pas en parler. Donc, on voit, il y a un article qui est sorti vendredi, je crois, M. Cloutier qui a abordé la situation, mais on n'avait pas entendu parler de rien. Donc, c'est sûr que, de mon côté, faut que je respecte cet alignement-là, autant le syndicat que la partie patronale. Mais c'est sûr que le fait qu'ils sont silencieux, on pourrait penser que c'est parce qu'ils réussissent à être autour de la table puis à continuer à discuter. Fait que moi, de mon côté, je vois ça positif, mais on va souhaiter qu'ils réussissent à avoir une entente le plus tôt possible.
Oui, parce qu'on sait que, bon, on est quand même traumatisé un petit peu par ce qui s'est passé dans le passé, lock-out de plusieurs mois. Oui. J'étais journaliste à ce moment-là, puis c'est quand même, ça a eu beaucoup d'impact dans le milieu. Alors, on souhaite un règlement, évidemment.
Oui, je suis convaincu que ça a laissé des traumatismes des deux côtés, tant du côté de la partie patronale que du côté syndical. Ça fait que donc, on ne peut pas commenter, puis moi, je trouve ça très bien qu'ils aient décidé de gérer ça... à porte close, c'est des négos d'une entreprise privée qu'un syndicat, puis c'est correct que ça reste comme ça.
Bonne nouvelle parfois.
Oui, on pourrait passer ça.
Troisième aussi élément dans l'actualité, Nouveau Monde Graphite, on apprenait assez récemment, un nouvel investisseur privé par rapport à la mine de Saint-Michel-des-Saints, mais pour que les gens comprennent bien c'est quoi le rapport par rapport à Bécancour, cette bonne nouvelle d'investissement privé additionnel dans le dossier?
Bien, c'est que lorsque la mine sera en fonction, le minerai devra être traité, puis c'est à Bécancour qui ont l'intention de le faire. Ça fait que donc, ce qui est annoncé, il y en a été question un peu vendredi, puis ce matin, Julien Arsenault dans la presse en reparle aussi. Finalement, pour la mine, Nouveau Monde Graphite a l'ensemble du financement qu'il a de besoin pour aller de l'avant. Ça fait que c'est comme, on peut dire que c'est le feu vert pour aller de l'avant avec sa mine. Et puis, Nouveau Monde Graphite, là, c'est, parfois je le dis, puis en tout respect, là, parce que c'est fréquemment un peu plus long que prévu, mais ils reculent jamais. Mm-hmm. Et donc, parfois, des projets vont très, très vite, mais après ça, ils reculent, ils réavancent. Mais eux, c'est...
Une progression...
Ouais, progression constante. À chaque fois qu'il y a un pas qui est fait, il n'y a jamais de pas de recul qui est fait. C'est donc, une fois la mine ficelée, débutée, assurément, ils vont devoir commencer à travailler sur le projet à Bécancour. Et puis, rappelons qu'ils ont fait l'acquisition d'un autre terrain puis d'un bâtiment dans les derniers mois pour être capable de réagir encore plus rapidement. C'est donc, tout ça, c'est de bon augure.
On y va du côté maritime. Il y avait un événement le 9 avril dernier auquel tu as participé, je pense.
Je faisais partie d'un des panels, oui.
Donc, c'est un événement qui avait pour but?
Bien, on voulait un peu démystifier ce qui entoure le transport maritime. Parce qu'avec le contexte économique, l'année passée, il y a un an, tout le monde un peu en panique parlait d'exportation, exportation et tout ça. Là, sans dire qu'il n'y a plus de panique, il y a quand même, c'est quand même encore dans l'air, mais... On souhaitait un peu démystifier comment c'est de faire affaire. Si on veut faire l'exportation, ça se passe comment? Donc, le port de Trois-Rivières, port de Bécancour, on était là. Il y avait des opérateurs. Ça fait que c'est un peu une intro pour notre invité qui s'en vient. Mais vraiment, c'était de tenter de démystifier tout ça. Et puis, l'idée, c'est pas tant de dire que l'exportation est magique, mais ceux qui veulent y aller, voir un peu ce que ça implique, de présenter les joueurs. Ça fait donc ça a été vraiment une journée intéressante pour mettre en valeur. T'sais. Puis je le rappelle, Trois-Rivières-Bécancour dans un tout petit rayon. Ça fait donc, Mauricie-Centre-du-Québec a la chance d'avoir deux installations vraiment intéressantes à portée de main. Puis c'est ce qu'on voulait mettre en valeur dans la perspective que les gens connaissent le potentiel. Puis c'est en bout de ligne une PME, un besoin. Puis que c'est pas Bécancour et Trois-Rivières qui est capable de le servir, c'est Montréal ou Québec, bien, on est très content quand même. Parce que ce qu'on voulait mettre en valeur, c'est le corridor Saint-Laurent.
Et pas plus tard que ce matin, Donald a dévoilé des chiffres fort intéressants pour 2025 par rapport au port de Bécancour. Est-ce que tu peux les préciser, ceux qui, peut-être, n'ont pas eu l'occasion d'apprendre la nouvelle?
Oui, bien, tu sais, il y a plusieurs façons de parler d'une croissance. Nous, on a choisi d'y aller avec l'indicateur le plus simple. Dans le fond, c'est l'augmentation des revenus au port. Puis ce qu'on amène, c'est une progression de l'an passé versus cette année, c'est un bond de 45% des revenus. Ça fait que donc, on est vraiment content de ça, content, fier. Et puis, évidemment, tout ça, ça se fait pas seul. Hein. Nous, le port nous appartient, on a un certain rôle, mais pour y arriver, on a besoin de gens, des opérateurs. Et puis, si tu permets, je vais faire l'intro.
Exactement, parce que c'est un acteur là-dedans.
Oui, donc, parce que... On a des partenaires, mais on a un partenaire principal. Et puis, notre invité, c'est Robert Bellil de QSL. Donc, bienvenue, Robert.
Merci, Donald.
Et puis, ce résultat-là, ben, je pense qu'il faut le partager, entre autres, beaucoup avec vous, parce que vous êtes aux premières loges. Et puis, nous, on n'engage pas les débardeurs, on ne gère pas les opérations, mais vous, vous êtes à plein là-dedans. Donc, c'est vraiment un résultat vraiment intéressant. Puis, on est vraiment fiers de ça.
Donc, Robert, qui est président directeur général de QSL, qui est avec nous ce midi, donc vraiment un privilège. Puis le timing est bon, comme on sent, mon Québécois, avec ses chiffres sur le port. Et sachant que QSL, c'est l'aguimeur principal au port de Bécancour. Donc, Robert, justement, Bécancour, chez QSL, ça représente quoi? Un des port important, intéressant pour vous autres?
Oui, c'est bien, si on recule dans le passé, QSL a été fondé en 1978 et on est à Bécancour depuis le début des années 80. Donc, on peut dire que presque depuis l'inception de QSL, on est présent à Bécancour. Et Bécancour représente un de nos top 5 en termes de terminaux. Donc, je pense que c'est un morceau très important. Comme l'a dit Donald, QSL a la plus grande présence sur l'axe du Saint-Laurent. Dans les cargos qu'on manutentionne, majoritairement vrac et cargo général. Et donc, Bécancour est dans ce top 5. Donc, ça montre l'importance de Bécancour par rapport à ces types de cargos-là pour l'axe du Saint-Laurent.
Donc, c'est une entreprise fondée en 1978, peut-être un petit peu d'historique par un certain Denis Dupuis, je pense.
Exactement. Monsieur Dupuis travaillait dans le domaine de l'arrimage et à un moment donné, il a décidé comme grand entrepreneur qu'il voulait partir sa propre société. Alors, il a emprunté 10 000 $ de sa mère pour partir sa business. Et puis, à partir de là, ben, est devenu l'évolution qui est QSL aujourd'hui. Donc, on peut considérer, je pense, un fleuron québécois. Et en 2024, parce qu'il n'y avait pas nécessairement la succession familiale dans l'entreprise, ben, on a décidé de vendre l'entreprise. On l'a vendue à deux sociétés. La première, qui est un fonds britannique qui s'appelle Icon Infrastructure. Et la deuxième, ben, c'est la caisse. Alors, puis ça, c'était important pour nous parce qu'on voulait avoir... maintenir le siège social au Québec, et on pensait que d'avoir la caisse comme actionnaire, bien, ça assurait cette pérennité-là, à ce niveau-là.
Donc, QSL, Donald, c'est une entreprise, évidemment. Toi, tu arrives en 2022 comme PDG de la Société du Parc. Connaissais déjà cette entreprise-là ou tu l'as connue à ton arrivée?
Ouais. Non, parce que moi, je n'étais pas dans ce domaine-là avant. Okay. Donc, je voyais plein de bateaux passer sur le fleuve. Je suis un amateur de sport nautique, je reste au bord du fleuve. Je voyais tous ces bateaux-là, mm-hmm. mais j'avais jamais eu la chance de gérer un port comme je fais là. Fait que non, c'était inconnu pour moi. Mais assez vite, il a fallu que je me trempe là-dedans. Puis, faut le dire, hein, tu sais, je connaissais rien de ce domaine-là. Ça a été d'échanger avec eux pour en connaître davantage. Puis, tu sais, bon, c'est déjà un rôle important, mais faut quand même connaître ça un peu pour donner des orientations et tout ça. Fait que ça a été très utile d'échanger avec Robert et avec tous les partenaires pour prendre ça en charge.
QSL qui est déjà là depuis une vingtaine d'années à Bécancourt, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que QSL soit là encore pendant plusieurs années pour la suite des choses?
Oui, bien on est très fiers d'avoir récemment signé une entente avec la SPIB à très long terme, donc on s'est entendu sur des principes pour les 20 prochaines années. Alors, pour nous, je pense que ça nous donne une stabilité pour proposer à nos clients et de futurs clients des infrastructures, puis avoir justement une flexibilité puis une habilité d'amortir les investissements qui vont être faits pour continuer à offrir des services à la SPIB. Et puis, la SPIB, naturellement, fait ses investissements aussi, comme vous savez très bien, dans ses processus d'agrandissement pour être capable de desservir les besoins futurs du marché. C'est encore plus important que tout le contexte qu'on vit aujourd'hui avec les échanges avec nos partenaires au sud.
Donc, c'est une entente précieuse, ça.
Bien, c'est une entente parce que, tu sais, oui, importante parce que c'est comme dans le domaine portuaire, hein, c'est de la logistique, mais c'est de la logistique qui demande quand même beaucoup de planification. Donc, si on veut faire du volume, se préparer, c'est pas en semaine ni en mois, c'est en année. Ça, j'ai compris ça. Et puis, ce que QSL, ce que Robert voulait pour, de son côté, c'était de la prévisibilité, de la durée. Puis, on peut le comprendre de par la nature. De la business. De notre côté, ce qu'on voulait, c'était une constance, même une croissance de l'achalandage, et c'est ce qu'on voit déjà à l'année 1. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est une entente vraiment intéressante. C'est vraiment un partenariat. Mm-hmm. Donc, si la Société du Parc a du succès avec son port, bien, QSL a du succès aussi et vice-versa. Là.
QSL, donc, avant d'aller à la pause déjà, qui s'en vient rapidement, peut-être, Robert, peut-être expliquer aux auditeurs, auditrices, qu'est-ce que c'est exactement QSL? Bon, évidemment, on parle de chaîne d'approvisionnement dans l'opération des terminaux portuaires, mais c'est quoi techniquement, là, de A à Z, que vous faites là, comme opération?
Oui, je vais prendre un petit peu de recul juste pour le bénéfice des auditeurs, là, donner du contexte. Quand vous cherchez à exporter, hein, puis on va enlever le sud, fait que, tu sais, c'est, naturellement, ça ne se fait plus par train, ça ne se fait pas par camion, ça va se faire que par navire. Il y a 4 portes d'accès à l'Amérique du Nord. Hein. Vous avez la côte est et la côte ouest. Vous avez le golfe du Mexique puis le Saint-Laurent. Donc, on est très choyés. On est une des 4 portes principales. Là, le fleuve Saint-Laurent et l'accès au Grand Lac, c'est une des 4 portes principales. Alors, à partir de ça, bien, vous avez une série de terminaux maritimes qui, eux, reçoivent ou expédient les cargos. Et puis, nous, bien, ce qu'on offre essentiellement, c'est un clé en main à notre clientèle. Donc, on est capable de faire ce qu'on appelle le premier mille, le dernier mille. Donc, partir d'un manufacturier, amener ça au port, charger ça sur les navires ou, à l'inverse, si du cargo rentre au pays, ben de décharger ce cargo et de le livrer à destination. Donc, c'est le morceau clé dans la chaîne. Et QSL a la plus grande présence sur l'axe du Saint-Laurent et les Grands Lacs, autant dans le cargo du vrac que du cargo général. Alors, c'est là que c'est l'importance du réseau de QSL là, d'être capable de desservir l'ensemble des clients à ce niveau-là.
Toute clientèle de tout domaine, lorsqu'on entend dire qu'il y a du clé en main, c'est toujours intéressant pour le client.
Absolument.
Ça simplifie leur vie.
Oui, c'est ça. Donc, vraiment, on aura l'occasion, peut-être après la pause, de déployer davantage les différents services et aussi, bon, les projets à venir, quoi que ce soit. Mais déjà, on a couvert un bon bout avec QSL, un petit peu au niveau de l'historique. Mais on reviendra après la pause avec Robert Bellil, le président-directeur général de QSL, pour voir un petit peu, bon, encore comment s'inscrit aussi QSL par rapport à ce projet de modernisation du port de Bécancourt avec Donald Olivier de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancourt. Et on vous invite à poser vos questions. Hein, chers auditeurs, auditrices, comment faire? Bien, vous allez sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, cliquez sur Poser vos questions au 819-59-9050, 819-59-9050. On vous retrouvera après la pause.
On est avec Janie Montreuil de Sojeté l'affaire. Bonjour.
Bonjour, Rosie.
Aujourd'hui, lancer un projet d'envergure, que ce soit un nouveau chantier technologique ou une rénovation de réseau, c'est pas toujours simple. Les échéances, le budget, la coordination, ça peut vite devenir complexe.
C'est vrai. La réussite d'un projet dépend autant de la planification que de sa mise en œuvre. C'est là que notre expertise en gestion de projet entre en jeu.
Et comment vous aidez les entreprises?
Notre équipe de gestion de projet s'occupe de tout. La planification, le suivi des étapes, la coordination avec les différents intervenants et le respect du budget. Le résultat? Un projet livré sans délai et sans surprise.
Et vous êtes là aussi pour les projets plus complexes ou techniques?
Tout à fait. Que ce soit pour un déploiement réseau, une installation de fibre optique ou un projet technologique sur plusieurs sites, nous assurons que tout se déroule sans accroc. On anticipe les risques et on optimise chacune des étapes.
Donc, les entreprises peuvent se concentrer sur le cœur de leurs affaires.
Absolument. Pendant que notre équipe gère le projet, nos clients peuvent se consacrer à leurs opérations et avoir l'esprit tranquille.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur sojetel.com.
Merci, Janie.
Merci, Rosie.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Donc, de retour avec notre invité Robert Bellil, le président directeur général de QSL, évidemment, Donald Olivier de la SPIB. En début d'émission, Donald, on a évoqué, évidemment, cette année record au port de Bécancour. Rappelons que combien, écoutez, 45% d'augmentation au niveau de la hausse des revenus portuaires. Puis, en passant, peut-être une parenthèse intéressante pour les gens que je lisais dans le communiqué, la SPIB tire près de 80% de ses revenus grâce à ses activités portuaires. Oui. Je savais même pas ça moi-même.
Moi, c'est quand même, c'est, historiquement, c'est ça. On souhaite les diversifier et avoir d'autres sources de revenus. Mais effectivement, c'est un fait. Donc, c'est important pour nous.
Puis cette croissance-là, bon, il y a des acteurs comme QSL. Puis je pense que vous voulez rebondir là-dessus un petit peu, Donald.
Oui, ben c'est d'avoir l'échange, en parler avec Robert. Parce que nous, évidemment, on donne l'indicateur. Il y a de la croissance, mais c'est des entreprises comme, entre autres, et beaucoup QSL qui ont manutentionné ces volumes-là et ces tonnes-là. Puis il y a quand même une explication, tu sais, ça tombe pas du ciel. Fait que c'est vraiment des opportunités additionnelles qui sont arrivées. Fait que peut-être si tu peux nous en parler un peu, Robert, vraiment de comment vous avez vécu cette année-là, parce qu'elle était quand même assez intense.
Grosse année.
Oui, bien, premièrement, pour remettre en contexte pour l'ensemble des gens, il faut se rappeler que près de 80% des biens qui sont utilisés par les Canadiens sont à une étape de leur traitement manutentionné par navire. Donc, tu sais, je sais que le domaine maritime, c'est peu connu, mais ça représente quand même 80% de la chaîne logistique. Alors ça, c'est un morceau important quand on regarde l'ensemble des projets et d'évolution des marchés, bien, l'importance du maritime. Alors, quand on regarde les exportations du Canada et du Québec, naturellement, vers les marchés étrangers, bien, ça passe par le maritime. Et dans les dernières années, bien, on voit une croissance dans notre secteur manufacturier, mais aussi dans les métaux critiques, dans l'éolien et plus naturellement bien, dans la desserte des cargos du Nord, qui, eux, bien, c'est des mines qui desserrent justement ces métaux critiques-là. Et puis, Bécancour est positionné sur ces quatre axes-là, justement. Donc, on a la desserte au travers de la SPIB, justement, d'un secteur industriel, juste à prendre l'aluminium, par exemple. Après ça, bien, vous avez la desserte de l'éolien pour desservir soit en intrant ou en extrant. Et après ça, bien, vous avez naturellement le cargo du Nord qui est un gros morceau des volumes qu'on fait à partir de la SPIB. Donc, et ça dessert naturellement les mines, mais aussi naturellement les communautés du Grand Nord qui sont dépendantes absolument de cette chaîne logistique dont le cœur névralgique, c'est la SPIB.
Oui, puis les communautés non reliées, là, il y a des besoins criants. T'sais, on parle des projets de mines, on peut concevoir des nouvelles mines, des besoins croissants, mais les communautés non reliées, il y a vraiment des besoins importants pour l'hébergement, par exemple. Donc, on voit toutes sortes de trucs, mais dont des bâtiments préfables qui s'en vont dans le Nord et tout ça. Puis on a quand même réussi, le QSL beaucoup, et l'aspect, bon, on en tire bénéfice. Mais tu sais, on a la haute saison, juin à peu près à octobre, mais on a réussi à avoir d'autres volumes, d'autres tonnages en dehors de cette saison-là. Fait, ce qui est quand même aussi, Robert, ça a quand même contribué à cette année-là parce que tu sais, la période de novembre à avril est habituellement plus calme, mais là, on a eu quand même des opportunités qui sont arrivées.
Oui, vous savez, bien que la voie maritime rétrécisse sa période de fermeture parce que les grands lacs sont fermés, elle reste qu'il y a une période où la voie maritime est fermée. Alors, un port comme Bécancour, multimodal, devient justement cette soupape-là à l'ensemble de ces autres ports-là qui sont, eux, au-delà des écluses. Et on a vu, bien, naturellement, ce besoin-là s'accentuer dans la dernière année. Et puis Bécancour, bien, en tirer profit.
QSL qui est présente sur combien de terminaux au Canada?
65 terminaux entre le Canada et les États-Unis. Donc, on est présent de l'entrée de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, toutes les provinces atlantiques. Comme je le mentionnais plus tôt, la plus grosse présence sur l'axe du fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs en termes de cargo général et vrac. Et après ça, on est présent à Chicago et dans le bas du Mississippi, donc dans Nouvelle-Orléans et Houston.
Puis aussi, bon, 2000 employés, je pense. Je vous le disais dans les notes. Beaucoup de personnes qui travaillent chez vous.
Oui, c'est de 2000 personnes en équivalent temps plein. Puis quand on prend la période de haute saison, comme le mentionnait Donald, là, quand on est dans le pic de la desserte d'été, c'est à peu près 250 personnes par jour qu'on déploie à Bécancourt pour les opérations.
Puis une parenthèse comme ça, il y a des employés de longue date, ce que j'ai su de la région qui travaille chez vous à QSL. Je pense qu'on avait... certains noms qu'on même que certains reconnaîtront chez nos auditeurs auditrices.
Oui, effectivement, si on parle, je parlais que l'entreprise a été fondée en 1978, donc on a exemple M. Jack Watt qui est avec nous depuis le début des années 80, Jean Philibert et puis Combe Massé aussi qui sont des surintendants depuis le début des années 90, et Jean Poliquin retraité mais qui vient toujours nous prêter main forte dans les hautes saisons. Puis on a ce qu'on appelle des jeunes qui sont plus aussi jeunes que ça. Là, c'est si on prend des Jean-François Paquin ou Maxime Brosseau, là, des début des années 2010, 2011, 2013. Donc, des gens qui ont quand même un bon bagage d'expérience, qui sont présents à Bécancourt et qui assurent cette stabilité-là de nos opérations depuis bien des années.
Jean Poliquin, qui n'est pas, à ne pas confondre avec notre président directeur, notre président du conseil d'administration.
Effectivement, hein. C'est un autre Jean Poliquin de Bécancourt, et M. Philibert de Gentil, Jack, je pense qu'il est de Trois-Rivières. Mais ce qui va être intéressant, Robert, ça va être en 2029, lors des premiers navires, de les inviter. Parce que ces gens-là ont vu l'ajout du B5 qui était là pour l'ABI à l'époque. Et puis là, on va voir l'ajout du B6. Fait que donc, ça ne sera pas banal. Fait que, nous, à l'ASPI, bon, on n'a pas d'employés qui sont là depuis aussi longtemps, qui ont pu voir toute cette transition-là. Fait que ça sera sympathique de les avoir avec nous lorsque le premier bateau arrivera.
Absolument. Il y a une mémoire institutionnelle à conserver à ce niveau-là, c'est clair.
Robert, toi ton arrivée à QSL, bon, remonte de quoi? Près d'une dizaine d'années?
Oui, je me suis joint en 2016 et je suis devenu PDG en début de 2017. Donc, j'ai fait quelques mois pour bien comprendre l'entreprise, travailler très près avec M. Dupuis à l'époque. Je continue à travailler très près avec M. Dupuis jusqu'à temps qu'il cède sa participation à l'entreprise, mais j'ai repris la présidence en le début des années 2017.
Il y a eu une transaction impliquant la Caisse de dépôt de placement du Québec. Hein?
Oui, c'est ça. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, comme il n'y avait pas de succession au niveau familial, la préférence était de vendre l'activité parce qu'on continue à croître. Donc, si on prend la taille de QSL, on a plus que doublé la taille de l'entreprise dans les 6 dernières années. Alors ça demande, comme le mentionnait Donald, beaucoup d'investissements, etc. Donc, sans que la famille soit impliquée, bien, c'est un peu difficile de continuer. Et nous, ce qu'on a voulu s'assurer, c'est de choisir les gens qui allaient être les investisseurs. Donc, on n'a pas fait un processus ouvert. Alors, on a travaillé avec Icon et la Caisse. Un rappel à l'ensemble des gens, là, la Caisse, c'est le plus gros investisseur d'infrastructure au monde. Donc, je pense qu'on peut être très fiers que notre bottom line est investisseur dans des entreprises. Et quand on regarde les créneaux qu'on dessert, bien, on voit dernièrement, il y a eu la transaction avec Boralex. Ça demeure des marchés clés pour la desserte à partir d'un port de mer.
Donc, les projets éoliens, manutention des projets éoliens, c'est dans votre collimateur.
Absolument. Dans le domaine de l'éolien, non seulement on fait l'opération de terminal, mais on a aussi une compagnie de transport hors norme qui, elle, peut livrer sur le chantier ou vice-versa, là, amener le cargo d'une usine manufacturière comme un Marmène à Trois-Rivières au quai de Bécancourt pour après ça être chargé sur un navire, pour après ça être envoyé à destination.
Donald?
Oui, puis tu sais, ce qui est intéressant de cette transaction-là, c'est que parfois, quand on veut développer des marchés, ça prend quand même de l'accès à des capitaux, hein? T'sais, donc, développer des projets, parfois, ça demande des investissements préalables. Et puis là, vous avez accès quand même à des fonds importants. M. Dupuis a eu la chance d'avoir accès aux premiers 10 000 $ de sa mère, mais il y a de limite à tout ça. Ça fait que donc, là, vraiment, il y a des bailleurs de fonds vraiment importants qui ont les reins solides, qui vont être capables de soutenir votre croissance.
Absolument. Vous savez, une petite anecdote rapide. Lorsque je discutais à un moment donné avec M. Aymon, qui est le PDG de la Caisse, mm-hmm. on parlait de la période de COVID, puis il m'a dit, avant, on regardait l'infrastructure portuaire comme étant portuaire étant aéroport et port de mer. Et quand la COVID a frappé, les aéroports ont fermé. Mais ce qui a gardé les économies en vie, c'était l'opération maritime. Donc, la Caisse est très conscient de ça. Puis c'est là qu'était l'importance d'investir là-dedans pour assurer justement que l'axe du Saint-Laurent, les terminaux québécois, bien, soient dans une main québécoise.
C'est quoi la vision de QSL par rapport justement à ce vaste projet de modernisation du port qu'on appelle Horizon Bécancourt? C'est quoi votre vision par rapport à ce qui s'en vient là-dedans?
C'est vraiment parfaitement arrimé avec ce qu'on veut faire, parce que quand on regarde la croissance, QSL, on cherche encore à doubler là, dans les 5 prochaines années, basé sur les prognostics. Et vraiment, tu sais, on veut doubler. Nos marchés clés, ce sont naturellement les métaux critiques, les énergies renouvelables. Et il y a aussi une percée dans le marché des conteneurs. On a fait une annonce qu'on veut faire avancer un port de conteneurs à Québec pour se servir de l'eau profonde de Québec, qui est la seule place sur l'axe Saint-Laurent. Mais vraiment, un gros morceau, c'est de la croissance organique et inorganique qui viendrait naturellement avec un besoin d'infrastructure qui fait partie de l'horizon, justement, de Bécancour.
Les projets Horizon, c'est un projet important pour l'aspect bien.
Oui, bien, c'est parce que déjà, on l'aurait aujourd'hui, puis il serait utilisé. Donc, il y a vraiment un besoin. Tu sais, il y a des trucs qu'on entend des fois à Montréal, il y a des gens questionnent contre cœur, tu sais, puis sur des perspectives à venir. Tu sais, nous, déjà, on l'aurait demain matin, et puis il serait utilisé. Et puis, on est vraiment chanceux. Tu sais, on n'est pas de la même taille que Montréal et que Québec, mais vraiment, on a tout ce qu'il faut pour se développer. Hein. Tu sais, on a tout le budget, on a tout le financement pour soutenir cette initiative-là. Puis, tu sais, je souhaite vraiment du succès à toutes les parts du corridor. Mais il y en a qui partent d'un peu plus loin dans le sens que c'est beau d'avoir un projet, c'est beau d'avoir une idée, mais ça prend l'argent pour le concrétiser. Donc, à Bécancour, on a la chance d'avoir déjà tout le financement bouclé. Et puis le projet est lancé. Ça fait que donc, c'est vraiment une chance qu'on a. Puis l'infrastructure, après ça, je pense qu'on aura atteint la limite du développement de Bécancour, mais au moins, on l'aura faite.
Donc, c'est fort intéressant pour QSL, ce projet de modernisation.
Absolument. C'est arrimé parfaitement avec les idées de croissance qu'on a. Comme disait Donald, je pense qu'on a déjà les besoins, donc on voit déjà ces marchés-là. Et pour l'instant, bien, on doit optimiser sur l'empreinte qu'on a. Je vais faire une blague, comme disait l'ancien propriétaire, mettre un deuxième étage, mais c'est vrai, ça ne peut pas être le cas. Là, mais faut continuer à toujours innover et s'améliorer au niveau de la manutention pour faire plus avec les pieds carrés.
Ben Donald, on est pratiquement rendu à la fin de l'émission. Je te laisserai le dernier mot pour saluer et remercier notre invité d'aujourd'hui.
Oui, puis pour moi, c'est important de reparler du port encore parce que c'est vraiment majeur. Puis on sait que c'est moins connu. T'sais, on sait que c'est moins connu parce qu'on passe sur l'autoroute, on le voit pas nécessairement. Et puis on voit les bateaux qui passent sur le Saint-Laurent, mais on se demande toujours un peu, c'est toujours un peu mystérieux, hein? Les processus de chargement, déchargement. Ça fait qu'en tout cas, merci Robert de t'être prêté au jeu. Puis je suis convaincu que les auditeurs ont apprécié, puis je le réitère, là, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais tu sais, on a une année record au port, vous êtes notre partenaire principal, il y a d'autres partenaires, mais vous êtes le principal partenaire, puis je tiens à te remercier pour ces résultats-là, que vous avez une contribution significative.
Merci, Donald, c'est vraiment un travail d'équipe, c'était un plaisir de travailler avec les gens de la SPIB.
Merci beaucoup, Robert Bellil, donc président directeur général de QSL, partenaire majeur, comme on dit, du port de Bécancour et de la SPIB et ce qui vient avec les résultats de 2025 qu'on a dévoilés aujourd'hui. Alors, merci encore et merci encore, Donald, pour ta disponibilité. Et ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine alors qu'on recevra Karim Zaghib, le spécialiste de la batterie. Et on sait que depuis la dernière fois, il est venu en 2024 et là, en 2026, tout un contexte, tout un questionnement sur plusieurs aspects de la batterie. Il sera des nôtres pour répondre à vos questions, mais surtout à faire le point sur la batterie. Alors, Karim Zaghib, la semaine prochaine. D'ici là, c'est possible toujours de poser vos questions. Toujours le même principe. On va sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes. On clique sur Poser vos questions ou 819-519-9050, texto, téléphone. Et d'ici là, passez une bonne semaine. C'est Marc Rochette qui vous invite à la prochaine émission du Parc en 30 minutes.